du gaz de schiste, exploitation de gisements de gaz de schiste, du logement, du féminisme. Bon, bref, secouez le tout, transvasez dans une bouteille, bourrez-y un torchon imbibé d'essence et jetez-y en direction des forces oppressives.
Canu Info du vendredi.
Du FMI et de l'Union européenne, accord sur un nouveau plan d'austérité sur 5 ans.
Et ne veulent entendre parler d'aucun consensus.
Alors, on a demandé de marquer un peu sport en derrière. On aura pu rajouter d'autres termes, hein, comme ras-le-bol de la pression, les menaces.
Ce qui est affolant, c'est qu'ils sont prêts à dépenser des sommes astronomiques pour entraver notre grève, tout simplement.
Ceux qui appellent la question des aides à la fin de notre
et ne veulent entendre parler d'aucun consensus.
Bonsoir, bonsoir. Vous êtes sur Radio Canu et c'est l'heure du Canu Info du vendredi. Canu Info de rentrée, une fois n'est pas coutume. Voilà. Et aujourd'hui, de quoi va-t-on parler ?
On va dire non au rassemblement raciste du 12 septembre.
Et puis on va aller du côté de l'éducation nationale et voir un peu qu'est-ce qui se passe à Lyon, puisqu'apparemment Blanquer nous aurait encore menti.
Mais tout de suite après, on vous parlera de l'événement sans précédent qui aura lieu demain, qui est le Tour de France.
À Lyon. On vous parlera ensuite au niveau national d'une base de données pour chercher les polluants et les pollueurs à côté de chez vous et aussi ailleurs.
Et parce que c'est la rentrée, on a envie de vous donner des ondes positives et vous parler d'une victoire et de la victoire qu'il y a eu sur la ZAD de Roibon.
Et ensuite, on aura une rubrique nucléaire avec l'interview de Gilles Reynaud, qui est le président de l'association Ma Zone Contrôlée.
Et enfin, à l'international, on sera solidaire du squat Rosanera en Crète.
Pour finir par le traditionnel agenda, parce que oui, les luttes reprennent à Lyon. Bonne écoute sur le 102.2.
Reportage sur le rassemblement qui a eu lieu à Lyon cette semaine.
Du Rouennais de la région qui s'appelle Stéphane Boulet.
En région lyonnaise, plus précisément à Pierre-Bénite.
Pour savoir où est-ce qu'on en est, la lutte des instits à Voix-en-Velin.
Petit reportage sur la grève
qu'on a dit à les interjoints sur la base du rassemblement pour le droit à
Canu Info du vendredi. Rubrique locale.
Et oui, et si la rentrée des luttes sociales se passe de notre côté, malheureusement, elle se passe aussi du côté des fascistes. Et on a appris aujourd'hui qu'il y avait un rassemblement raciste demain, du coup le 12 septembre, devant le palais de justice du Vieux-Lyon. La fachosphère lyonnaise, dont notamment Lyon Populaire, c'est l'ex-bastion sociale Génération Identitaire, organise un rassemblement contre l'insécurité à Lyon devant le palais de justice du Vieux-Lyon, donc demain à 14h. Ce rassemblement, sur un thème ultra médiatisé ces derniers temps, est utilisé comme tremplin par ces groupuscules fascistes afin d'occuper la rue. Grâce au travail des collectifs luttant contre ces groupuscules, nombre de leurs actions ont été interdites ces dernières années. Ce n'est pas le cas de celle de demain, où les fascistes avancent masqués, mais nous ne sommes pas dupes. La fachosphère utilise aussi des drames ou en invente. On se souvient là, il y a quelques jours, de l'agression d'Augustin, qui était du coup une personne de Génération Identitaire qui avait beaucoup médiatisé sur les réseaux sociaux le fait qu'il aurait sauvé deux meufs de l'agression de personnes racisées, alors que ces meufs ont par la suite sur les réseaux sociaux démenti ce qu'il était en train de raconter et se sont fait par la suite harceler par des personnes d'extrême droite. Donc ils utilisent ou inventent des drames pour pouvoir déverser leur haine sur les réseaux sociaux, puis dans la rue, comme ce qu'ils vont essayer de faire demain. Ils essayent même de généraliser la thématique du rassemblement « L'insécurité à Lyon » pour passer inaperçu, mais il est très facile de retrouver leurs traces et leurs liens avec l'ultra-droite sur les réseaux sociaux. Du coup, le collectif pour la fermeture des locaux fascistes refuse l'instrumentalisation, notamment des droits des femmes, des violences envers les femmes, comme par exemple le harcèlement de rue, à des fins racistes. Ce rassemblement raciste, du coup, ne peut avoir lieu pour le collectif pour la fermeture des locaux fascistes. Le même jour, ces groupuscules prévoient un programme très chargé visant à donner à Lyon une place centrale dans l'extrême droite française. Lyon Populaire organise une conférence le même jour, donc demain, et Génération Identitaire tient un pot de rentrée dans leur local La Traboule. Il y aura forcément la présence de militants fascistes d'autres villes de France à Lyon demain pour grossir leur rang. A noter que ce local, La Traboule, a reçu l'aval de la nouvelle majorité, la ville de Lyon, pour sa réouverture. Quelle sera la réaction des pouvoirs publics face à ce rassemblement? En vrai, on n'en sait rien pour l'instant. On ne sait pas vraiment s'il y a une mobilisation qui va avoir lieu contre celui-ci. Ce qu'on a envie de dire, c'est que pour nous, ce rassemblement raciste de demain, il ne doit pas avoir lieu. Et si vous avez envie de contacter le collectif pour la fermeture des locaux fascistes, vous pouvez le faire par mail en écrivant à fermontleslocaufascistes, tout attaché, @riseup.net. Voilà, ce n'est pas très gai. On va maintenant aller du côté de l'éducation nationale et vous parler un peu de la rentrée scolaire, puisque je ne sais pas si vous avez dans votre entourage des cas contacts, mais en tout cas, il paraîtrait que le Covid se transmet particulièrement bien au sein de l'école. Alors que Blanquer annonçait une rentrée normale, 24 classes dans 20 écoles sont déjà fermées le 9 septembre dans la métropole. À Vaux-en-Velin, au collège Henri Barbusse, il n'aura fallu que 3 jours de rentrée pour se rendre compte que rien ne serait normal et que, surtout, rien n'était sous contrôle. En effet, depuis le 3 septembre, c'est toute la vie scolaire du collège qui est placée en quatorzaine. Face à cette situation, le rectorat n'a rien anticipé. On rappelle quand même qu'on connaît le virus depuis quasiment un an, qu'on était en confinement de mars à mai. Et donc on avait un peu envie de vous lire le communiqué des personnels du collège Henri Barbusse qui dénonce l'impréparation de la rentrée de l'éducation nationale. Couleur communauté s'appelle sur le terrain, la réalité est tout autre. Le ministre de l'éducation nationale n'a cessé d'arpenter les médias fin août, début septembre pour claironner haut et fort que tout était prêt. Qu'à situation exceptionnelle, il y aurait des moyens exceptionnels. Au collège Barbusse, donc comme je vous l'ai dit, il aura fallu à peine 3 jours pour se rendre compte qu'une nouvelle fois, c'était de l'affichage politique, de la fumisterie. Rien n'est prêt. Aucune éventualité n'a été étudiée, et encore moins des solutions envisagées. Ainsi, au deuxième jour, une assistante d'éducation a été testée positive au Covid-19. Une journée de flottement, et toute la vie scolaire est placée en quatorzaine. Par contre, pas question de fermer le collège. Les personnels ont interpellé le rectorat et l'inspection d'académie afin de voir comment le collège allait fonctionner en demandant une réponse écrite. Près d'une semaine plus tard, aucune réponse n'est arrivée. Sur le terrain, c'est du bricolage pour tenter d'assurer au mieux, au moins pire serait plus approprié, la sécurité. La question du suivi éducatif, comme la qualité de l'accueil des élèves, est reléguée au second plan. Sur le terrain, au lieu d'avoir 7 assistants et assistantes d'éducation et 3 CPE, il y a 3 personnels du rectorat, équipe mobile de soutien, et 4 heures par jour, 2 animateurs de la mairie. Du coup, ce personnel de soutien sont censés être envoyés en appui des équipes. Là, pas de chance, il n'y a plus d'équipe. Leurs missions sont centrées sur la sécurité et la surveillance de la cour. Par contre, ils ne peuvent pas faire de suivi éducatif, ne rentrent pas dans les bureaux. Ils n'ont même pas le droit d'assurer les entrées et sorties d'élèves. Pour cela, ils doivent être accompagnés d'un personnel de l'établissement. Pourtant, après les 2 mois de confinement et le retour limité d'un personnel de... et le retour limité des élèves en juin, dans le collège, comme dans beaucoup d'autres, un nombre important d'élèves a décroché. Les personnels avaient pensé et réfléchi des choses à mettre en place pour redonner du sens au collège et au travail scolaire. Mais bien loin des grandes annonces du ministre, au premier couac, rien n'a été prévu. Plus grave encore, le rectorat ne semble pas se préparer à faire face à cette situation qui arrivera de nouveau dans ce collège ou dans un autre dans les jours et les semaines à venir. Cet épisode a également permis de se rendre compte que les masques fournis par l'éducation nationale ne sont pas suffisamment protecteurs. En effet, après discussion avec les services médicaux du rectorat, il apparaît que seuls les masques chirurgicaux sont considérés comme fiables pour la protection. Là encore, on se rend compte que les discours des moyens exceptionnels mis en œuvre est un pur mensonge. Enfin, au vu de la situation incertaine des semaines à venir, les personnels sont bien conscients qu'en cas de fermeture des classes ou plus largement d'établissements, Rien n'est prêt pour envisager un travail à distance de qualité. Chacun et chacune devra se débrouiller de son côté, sans matériel et sans consigne. Pire, les personnels souhaiteraient un temps de formation pour harmoniser les pratiques, établir un discours clair en cas de fermeture. Le chef d'établissement répond que toutes les formations sont suspendues jusqu'à au moins la Toussaint. Non seulement rien n'est prêt, mais en plus, l'éducation nationale refuse de se préparer à diverses situations. Et de conclure, le discours ministériel est bien loin de la réalité des établissements scolaires et encore plus loin de l'intérêt des élèves.
Vas-y, Louison.
Louison, mauvais. 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 Louison, mauvais.
Louison, mauvais.
Louison, mauvais.
Louison, mauvais.
Putain, Raymond, regarde là-bas.
Eh ben, je le reconnais, mais c'est Louison mauvais. Vas-y, Louison.
Louison, mauvais.
Louison, mauvais.
Louison, mauvais.
La piste est bloquée. Roule, roule sur les pavés.
Vas-y, Louison!
Louison, mauvais! 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 Louison, mauvais!
Louison, mauvais!
Louison, mauvais!
Louison, mauvais!
Louison, mauvais!
Et vous êtes sur Radio Canu, c'est le Canu Info et on vient d'écouter Louison Bobet du groupe Ludwig de Fun 88. Et donc du coup, bah, pourquoi vous a passé cette chanson? Parce qu'on va vous parler du Tour de France et je vous parle avec un micro jaune, figurez-vous.
Et oui, quoi de mieux que les Ludwig et Louison Bobet, cycliste du Tour de France dans les années 50. On vous rappelle quand même, si vous l'avez oublié, triple vainqueur du Tour de France entre 53 et 55. À un moment, on ne parlait pas de dopage, ni de Covid-19, et encore moins de Tour de France machiste et polluant. Parce que bien sûr, il y a le Tour de France qui passe par Lyon demain. Alors pour vous informer un peu quand même de qu'est-ce que ça veut dire, il y a une sorte d'arrivée et de départ qui se feront à huis clos, mais vous avez quand même le droit d'aller encourager les cyclistes le long du parcours dans Lyon et alentour, dans le respect des gestes barrières et l'obligation du port du masque. Il y a surtout beaucoup de mesures d'interdiction de circulation, des vélos, des piétons, des voitures, dans énormément de rues de Lyon, ainsi que l'interdiction de toute manifestation et rassemblement. Est-ce que ça va interdire le rassemblement fasciste? On ne sait pas vraiment, peut-être.
J'espère.
Mais voilà, on retient toutes ces interdictions, on retient aussi l'interdiction tout le week-end partout dans Lyon de boire de l'alcool sur la voie publique, tout comme la vente d'alcool à emporter, la vente, la détention et l'usage de feux d'artifice, de fusées ou de pétards, ainsi que la détention, le transport ou la vente de carburant en récipient portable. Ça n'a pas l'air si rigolo que ça, ce Tour de France, que du coup notre nouveau maire Doudou, alias Grégory Doucet, voit comme une compétition sportive complètement dépassée, machiste et polluante. On ne peut que rejoindre là-dessus. On vous rappelle quand même que ce Tour de France, ça coûte 600 000 euros à la ville de Lyon. Voilà, l'arrivée le 12 et le départ le 13, pour vous donner une idée du poids financier de ces interdictions. Alors, on a vu aujourd'hui notre GG national qui n'est pas tout à fait mort, nous dire sur Twitter à Lyon, avec la nouvelle équipe municipale, la ville ne sera plus à la fête. On a un peu envie de lui rappeler que toute cette mascarade, elle a bien été votée et validée sous son règne, et que du coup, c'est grâce à lui que nous n'aurons le droit ni de boire, ni de faire la fête, ni de manifester demain et après-demain dans Lyon, ni de faire quoi que ce soit visiblement, puisqu'il y a des flics absolument partout, pour peut-être essayer d'apercevoir. Surtout, on imagine des camionnettes vous balançant plein de petits goodies, et peut-être des cyclistes, mais ne vous en faites pas, maintenant avec toutes les voies cyclables, vous allez pouvoir en voir tous les jours, dans toutes les rues de Lyon. On est surtout un peu triste, puisqu'on a appris que dimanche devait avoir la première World Neck Back Bike Ride à Lyon. Ça veut dire un défilé de personnes toutes nues sur le vélo, sur un vélo pour le climat, et que du coup cette manifestation qui devait avoir lieu dimanche a été elle aussi annulée. Alors c'est une manifestation qui est nationale. Alors pour vous présenter un peu ce truc là, du coup dimanche 13 septembre, plein de militants écolos voulaient défiler sur un vélo, en roller ou en trottinette dans plusieurs villes de France, nus ou habillés. C'est organisé par la Fédération Française du Naturisme et l'événement vise à promouvoir l'écomobilité et la réduction des énergies fossiles, avec ou sans vêtements. Donc cette initiative, en fait, ça a été créée dans les années 2000 et ça s'est largement répandu dans le monde, que ce soit en Allemagne, en Espagne, en Belgique, en Australie ou encore aux États-Unis. Mais en France, la tradition peinait à s'imposer, et la première édition devait avoir lieu l'année dernière, en septembre 2019, mais avait tourné court suite à un arrêté de la préfecture de police de Paris interdisant aux cyclistes de défiler nus. Et voilà, là, normalement, c'était censé se passer ce dimanche, avec des manifs notamment à Paris, à Lyon et à Rennes. On espère qu'à Paris et à Rennes, ces défilés auront réellement lieu. Et pourquoi pas à Lyon, on ne sait pas si ça peut vous donner des idées. En tout cas, voilà, nous, ce qu'on retient de ce Tour de France, c'est beaucoup d'interdictions. On se demande un peu la rentrée des Gilets jaunes qui a lieu demain samedi. Comment ça va se passer? On rappelle jaune. La couleur du Tour de France. En tout cas, nous, on ne voit pas bien l'intérêt de cet arrêt dans notre ville si c'est synonyme d'interdiction, de réprobation et surtout d'impossibilité de circuler, alors que le vélo est quand même censé être synonyme de liberté et de pouvoir se réapproprier les déplacements. Je n'ai pas voulu les citer, mais j'ai trouvé sur Lyon Capitale 3,5 pages de rues interdites. Vraiment, je les montre à mes collègues. Voilà, donc je ne peux pas vous les citer parce qu'elles sont beaucoup trop longues. Mais je vous incite réellement à vous renseigner si vous avez prévu de bouger ce week-end.
Moi, je serais curieux de voir le Tour de France passer sur les pistes cyclables pour voir comment ils se
démerdent. C'est vrai qu'un test grandeur nature pour montrer l'absurdité de ces pistes cyclables temporaires sur lesquelles on ne peut pas rouler serait d'obliger plusieurs centaines de cyclistes à les prendre sans se prendre les bagnoles publicitaires, bien évidemment.
Rubrique nationale.
Je ne céderai rien. Ni aux fainéants, ni aux cyniques, ni aux extrêmes.
Il y a, d'un côté, un nouveau totalitarisme, et c'est nous.
C'est pourquoi j'ai décidé qu'en novembre prochain, nous sortirons de l'état de droit.
Aujourd'hui, dans la rubrique nationale, on va vous parler d'une petite trouvaille, une base de données pour chercher les polluants et les pollueurs à proximité. Mais pas que. Alors, ce registre, c'est le registre des émissions polluantes. Alors, si tu es confiné, que tu es en quatorzaine forcée, que tu ne sais pas quoi faire, mais que tu voudrais bien faire un truc, une petite idée, tu peux aller t'amuser avec une base de données et t'en servir pour balancer à la face d'une grosse industrie polluante des datas bien cinglantes. Donc cette base de données, c'est le registre des émissions polluantes. Bon, alors c'est pas très fun comme ça, comme nom. Et en plus, c'est un site en point goût. Et le site ne s'appelle même pas registre des émissions polluantes, mais Géorisque. À croire que c'est fait exprès pour être difficile à trouver. Bon, mais une fois qu'on y est, on peut trouver des petits trucs bien sympas. Alors ce registre, en fait ce registre c'est quoi? C'est les émetteurs de polluants qui déclarent leur rejet et les transferts de polluants dans un inventaire national. Donc en fait ça nous centralise tout ce qui est substances chimiques ou polluants potentiellement dangereux qui sont rejetés dans l'air, dans l'eau et dans les sols. et aussi donc la production et le traitement de déchets dangereux et non dangereux par les différentes installations industrielles en France. Alors, si vous allez sur www.georisque.gouv.fr, vous allez trouver une page de présentation avec un petit sommaire. Et dans la partie accès aux données, vous pouvez faire des recherches et là, ça devient intéressant. Alors, bien sûr, on ne peut pas faire tout ce qu'on veut et croiser les données comme on voudrait. Mais on peut soit faire une recherche spécifique par polluant, par installation ou par type de déchet. Donc, vous pouvez même ensuite sélectionner un département, une région, jusqu'à une commune et même une année. Et là, du coup, vous pouvez facilement trouver qui est le plus gros pollueur à côté de chez vous ou de chez votre grand-mère ou ailleurs et voir ce à quoi vous êtes quotidiennement exposé. Vous pouvez faire ça, soit vous pouvez carrément générer une synthèse nationale par secteur pollué, donc pour ce qui est l'eau par exemple, je voudrais la liste des 10 plus gros pollueurs de l'eau, pour l'air ou pour les sols, ou alors vous pouvez faire une synthèse par type de pollution, donc par polluant. Alors bon, là du coup c'est vrai qu'il faut vraiment bien connaître les noms des différents polluants, bon, c'est l'occasion d'aller apprendre un petit peu des petits trucs chimiques. D'ailleurs la liste est longue en fait, parce qu'il vous propose de chercher dans un index qui est très détaillé, et ça en est carrément flippant. Alors un petit exemple pour la route, une synthèse disons au hasard des émissions de SF6. Alors le SF6 c'est l'hexafluorure de soufre. On vous en a déjà parlé sur le son 2.2, c'est un des gaz à effet de serre le plus puissant du monde. Presque 23 000 fois plus puissant que le CO2 en termes de pouvoir réchauffant. C'est un gaz utilisé comme isolant électrique, qu'on retrouve notamment dans les centrales nucléaires, et dont les fuites sont malheureusement coutumes dans l'industrie nucléaire, mais pas que. Donc, dans la synthèse que je fais sur les émetteurs de SF6, par exemple, en 2018, je trouve la liste des 10 plus gros émetteurs nationaux, avec le nom de l'établissement, sa localisation, son activité, et le nombre de kilos rejetés par an, donc pour l'année que vous allez sélectionner. Donc là, moi, j'ai pris 2018. La palme du plus gros émetteur de ce méga puissant gaz à effet de serre est Silec Câble, dans le 77, donc à Montreux-Fault-Yonne. C'est une boîte qui fabrique d'autres fils et câbles électroniques ou électriques et qui a émis en 2018 1600 kg de SF6 dans l'atmosphère. Ça représente un peu plus de 17% des émissions totales déclarées pour cette année-là, donc c'est eux qui sont au top de la liste. Mais, donc là c'est dans le 77, Seine-et-Marne, mais on voit aussi que la région 69 par exemple est bien lotie. À Villeurbanne, nous avons Grid Solutions qui fabrique des matériels de distribution et de commande électrique, qui a rejeté en 2018 près de 1000 kg de SF6, 942 pour être exact. Alors on le rappelle, il faut multiplier par 22 800 si vous les comparez avec le CO2 dont on vous parle tout le temps dès qu'on aborde le réchauffement climatique et les gaz à effet de serre. Donc comme quoi, ça on entend quand même très peu parler, alors que ton petit trajet, toi individu, ça oui. À Saint-Priest aussi, nous avons Créaliste, activité de conditionnement, donc on imagine de déchets, est en bonne place avec 564 kg rejetés dans l'atmosphère en 2018, soit 6% des émissions totales annuelles de SF6. Alors, donc il n'y a pas que dans le Rhône, hein, je vous rassure, qu'on trouve des gros émetteurs de SF6. Il y a aussi le Nord avec la centrale nucléaire de Gravelines, 777 kg en 2018. Et en Normandie avec les centrales nucléaires de Paluel et de Penly. Enfin voilà, il y a de quoi trouver des données vraiment sympas et libre à soi après de s'en servir comme bon lui plaira. En tout cas, on peut lancer un grand jeu concours national Radio Canu. Épinglons un pollueur et envoyons-lui dans la face ces data qu'il a lui-même déclarées et qu'il ne pourra donc logiquement pas contester. Bon à savoir, faut fouiller et fouiner, mais en cliquant sur le nom de chaque industrie qui est sortie dans cette synthèse, vous trouvez aussi tous les polluants qu'elle a rejetés dans l'environnement, dans l'air, dans l'eau, dans les sols, les déchets qu'elle a produits et les mètres cubes d'eau qu'elle a consommés et prélevés, à la fois dans les eaux souterraines et de surface. Bref, une vraie petite mine ce truc, même si c'est limité et peut-être un peu sous-estimé.
Et après, il y a un autre truc au fait, ça s'appelle Géorisque. Aussi parce qu'en fait ils fournissent une carte avec plein de risques, donc à la fois géologiques mais pas que, puisqu'il y a aussi des risques industriels. Mais en fait c'est assez intéressant de s'amuser avec cette carte, on peut sélectionner les types de risques et les visualiser à l'échelle nationale. Et donc pour vous donner des exemples de risques visualisables, vous avez les inondations, les séismes, les mouvements de terrain. Vous avez un petit panel d'installations industrielles. Donc, on retrouve. Donc, vous pouvez notamment sélectionner des établissements qui déclarent des rejets ou des transferts de polluants. Et je peux vous assurer que quand vous cliquez dessus, ben, la France, elle devient pas trop. Enfin, c'est tout est rouge vif, quoi. Vous pouvez aussi sélectionner, par exemple, vous pouvez faire un mix entre les installations nucléaires de base et puis les séismes, par exemple, pour prendre un sujet un peu d'actualité. Vous avez aussi d'autres choses, comme par exemple, ça propose aussi une carte du radon. Et ça, on en parle trop peu. C'est un gaz. C'est un gaz noble, hein, on appelle ça comme ça. C'est un gaz noble qui est radioactif. Et alors, pour information, si, pour ceux qui n'ont pas envie d'aller voir sur la carte, je vous donne les régions qui sont les plus impactées. Donc le Massif central, la Bretagne, les Pyrénées, les Alpes et le sud-est. Alors sud-est, est-est, vers Nancy. Voilà. Et vous avez aussi vous pouvez aussi visualiser. Les nord-est, pardon, j'ai dit sud-est.
Non, si, sud-est.
Ouais, pardon. Ouais.
Petit problème.
Pardon, ma langue fourche. Vous pouvez aussi visualiser des canalisations de transport de matières dangereuses, visualiser les sols pollués. Donc, les sols pollués, c'est un peu comme visualiser les établissements qui déclarent des rejets ou transferts de polluants. Hein. C'est à peu près la même carte, c'est-à-dire c'est rouge vif de partout. En tout cas, c'est assez amusant de visualiser ça. Et c'est souvent des données qu'on n'a pas trop, qu'on n'a pas facilement. Et donc, c'est plutôt cool d'avoir un site qui référence un peu tout ça, quoi.
Donc peut-être le truc à aller zioter avant de prévoir un déménagement.
Oui, après c'est pas d'une finesse folle non plus, quoi. En tout cas, déménagez pas à Lyon et déménagez pas à Paris.
Déménagez
à Bretagne et bon. Bah,
pas en Normandie. Bon allez, amusez-vous bien. www.georisque.gouv.fr.
Et maintenant, on va vous parler d'un truc un peu joyeux, c'est-à-dire on va vous parler de Roibon, puisque il y a une petite victoire à fêter, puisque le projet de Center Park a été abandonné.
Yay !
Et donc ça, c'est plutôt cool. Et donc c'est un peu une des bonnes nouvelles de... Alors je dis une parce que je ne sais pas toutes les bonnes nouvelles de l'été, mais en tout cas, ça en fait partie. Et du coup, juste pour vous rappeler, c'est que c'est après 10 ans de lutte. Et Gérard Brémond, donc c'est le dirigeant du groupe qui devait construire ce fameux Center Park, donc ce groupe s'appelle Pierre et Vacances, a annoncé donc le 8 juillet, donc début juillet, que l'abandon du projet donc de Center Park, dont la mise en place impliquait entre autres la destruction de 80 hectares de la forêt de Champbaran. Donc l'abandon de ce projet en fait est le fruit de tant attendu, en tout cas de luttes assez diversifiées, puisqu'il y a eu des occupations illégales, des recours juridiques, des communications publiques, etc. Et d'ailleurs, Gérard Brémond était dans un désarroi total quand il a annoncé ce truc, puisque, je cite, « on était dans une impasse, c'était devenu inextricable entre l'occupation du site, les changements de réglementation, les autorisations pour les permis de construire, pour le défrichement, la loi sur l'eau, la préservation des espèces et les lenteurs de la justice dans les différents stades, la cour d'appel, le tribunal administratif, le Conseil d'État. Tout cela se superposait, c'était interminable. » Et oui. Il y a tout ça à prendre en compte, en fait. Donc je pense que ça a été une dure claque de la réalité pour Gérard, qui, lui, était plutôt habitué, je pense, à ce que tout roule comme sur des roulettes. Hein. Donc en gros, j'arrive à Roibon, je file des billets à la mairie, je fais miroiter quelques emplois précaires et hop, je mets mon Center Park. Donc voilà, mais en fait ça se passe pas trop comme ça, il faut tenir compte de plein d'autres choses. Et heureusement, il y avait cette ZAD à Roibon dans le bois des Avenières. Et donc ça fait maintenant 6 ans que des personnes défendent cette zone. Je vais pas vous lire l'article, mais en tout cas je vous invite à le lire, qui s'appelle Vive la forêt, abandon du projet de Center Park, qui est paru sur votre site préféré Rébellion. Donc voilà, qui est un récit personnel de cette occupation de la forêt. Et du coup, ben voilà, le projet Center Park a été abandonné. Pour autant, la lutte à Roibon n'est pas terminée. Et les habitants de la ZAD continuent d'appeler au soutien. Car là, en tout cas, dans l'immédiat, il y a des fortes craintes d'expulsion. Et donc, il y a des demandes très explicites de soutien et de besoins matériels. Donc, donc, matériel médical, nourriture, vêtements, couchage, matériaux, etc. Et donc, en fait, voilà, y a un peu, même s'il y a eu cette victoire de la ZAD sur ce projet de Center Park, en fait, il y a un enjeu à rester mobilisé, de part pour ces expulsions, mais aussi, comme on peut le dire des fois, c'est un projet de parti 10 qui se bouscule derrière la porte. Et notamment dans l'article que je vous ai cité, que vous pouvez lire sur Rebellion, cette personne-là, elle écrit, l'écrit très bien, pardon, « L'abandon du projet n'entérine aujourd'hui aucune victoire. Il annonce une nouvelle étape dans la défense de cette forêt. Avant le Center Park, un projet de décharge avait été étudié pour le bois des Avenières. On peut s'attendre sans trop d'hésitation à ce que Serge Perrault, maire de Roibon et figure de la grande bourgeoisie propriétaire, nous prépare une nouvelle horreur pour raser ces arbres qui, nous, ne nous ont jamais fait défaut. » Donc voilà, en fait, c'est ça, c'est que alors, c'est aussi pour ces raisons-là, qu'il y a peut-être un besoin pressant d'évacuer les gens parce que justement ce projet de Center Park a été abandonné. Et du coup, dans les projets du coin, alors qui ne sont pas complètement nouveaux, qui sont un peu sur le tapis au moins depuis 2014, il y a un truc de projet éolien qui a été mis à l'étude, enfin, qui est, donc, comme je disais, depuis 2014, qui est, alors après, je ne connais pas, je sais qu'il y a au moins une boîte qui s'appelle EDPR. Qui a lancé ce projet d'étude-là pour implanter 11 éoliennes juste au sud de la ZAD. Et il y a eu une enquête publique en 2018 pour savoir si c'était possible et tout. Et cette enquête publique a été plutôt favorable, hein, évidemment, puisque en 2019, il y a eu une autorisation environnementale délivrée par monsieur le préfet de l'Isère. Et donc voilà, et donc il y a des risques un peu comme ça de projets qui viennent derrière s'implanter sur la ZAD. Et donc, comme disait la personne qui a écrit l'article, il faut être assez vigilant parce que en fait, il y a une volonté locale d'exploiter cette zone à des fins industrielles, commerciales ou je ne sais quoi. Et du coup, il faut rester assez vigilant et vigilante. Et il faut la ZAD de Roibon n'est pas une ZAD à abandonner en fait. Donc c'est important de continuer à la soutenir. Donc voilà, affaire à suivre. Et on espère qu'il n'y aura pas un autre projet foireux qui va venir derrière.
Ça va.
Alors, je cherche le jingle, pardon.
Je trouve pas.
Le jingle de la rubrique nucléaire.
Canu info du vendredi.
Car tu m'es cher, je ne compte pas, je ne compte plus. Comme tu m'éclaires au nucléaire, j'ai le ciel bleu. Tu me ramènes quand je déraille un jour sur deux.
Radio Canu 102.2.
Aujourd'hui dans la rubrique.
Aujourd'hui dans la rubrique nucléaire, on tenait à commencer l'année et cette rentrée avec un sujet qui nous est cher. Une interview de Gilles Reynaud, président et fondateur de l'association Ma Zone Contrôlée. Alors Gilles Reynaud, on vous en a déjà parlé, c'est un nom que vous avez certainement déjà entendu sur nos ondes, militant multicasquette qui lutte pour faire connaître les conditions de travail des sous-traitants du nucléaire et faire reconnaître leurs droits. Donc on vous en a déjà parlé, on va vous laisser se présenter et répondre à quelques-unes de nos questions.
Alors donc je m'appelle Gilles Reynaud, j'ai 54 ans, je suis le président fondateur de l'association Ma Zone Contrôlée. Et ça fait 32 ans que je travaille dans la filière nucléaire.
Ok, donc en fait, toi, tu es vraiment ce qu'on appelle les travailleurs du nucléaire. Ton métier, c'est d'aller bosser dans les centrales et les usines.
Exactement, j'ai travaillé donc pendant ces 32 ans sur les sites nucléaires d'EDF, sur les centres de recherche du CEA, et actuellement je suis sur le site Orano du Tricastin.
D'accord, et là, aujourd'hui, ton métier, ça consiste en quoi ?
Alors là, actuellement, je suis chauffeur-livreur. Je fais donc des livraisons de matériel sur les installations.
Mais à la base, c'était pas ça ta formation et ce que tu faisais au début de ta carrière, non ? Ça a évolué ?
Au début de ma carrière, c'est vrai que j'ai débuté en faisant des métiers de logistique, de décontamination. Après, j'ai fait un petit peu de démantèlement, la gestion des déchets. Je suis retourné à l'école pour obtenir un diplôme, une licence sur le risque technologique et professionnel que j'ai obtenu. Et aujourd'hui, voilà, je suis pas du tout dans ce secteur d'activité de la prévention des risques. Je fais des livraisons avec un camion sur le site Orano du Tricastin.
Alors c'est vrai que, en plus, la prévention des risques sur les sites nucléaires, surtout quand on s'occupe directement, qu'on est au contact direct des déchets, etc., on comprend que c'est quand même un sujet hyper important pour les travailleurs de se former là-dessus. Mais comment ça se fait, du coup, est-ce que c'est ton employeur, en fait, qui t'a obligé à sortir de cette voie-là ?
Alors, c'est pas lui qui m'a obligé, c'est lui qui, on va dire, qui impose le travail qu'il y a à faire. C'est vrai, comme tu dis, sur un site nucléaire, il y a de la radioactivité, inévitablement, mais il y a aussi d'autres spécificités au métier que l'on fait en ce moment. Le démantèlement, par exemple, il y a beaucoup d'amiante, il y a du plomb, il y a du mercure, il y a tout un tas de produits chimiques. Et tout ça, moi, ça m'intéressait, en fait, de voir un petit peu le déroulement de ces chantiers, et puis surtout que les intervenants, les intervenantes soient, on va dire, encadrés en termes de tout ce qui est la réglementation, tout ce qui est suivi sanitaire, parce que j'estime qu'aujourd'hui, c'est ça la priorité pour la suite, quoi.
Ouais, qu'il ne faudrait pas que ceux qui travaillent dans les installations perdent leur vie à essayer de la gagner là-bas parce qu'ils ne sont pas protégés par leur patron, quoi.
Exactement,
Du coup, aujourd'hui, là, justement, vendredi 11 septembre 2020, toi, tu es en procès contre ton ex-employeur, donc anciennement Areva, qui maintenant est Orano. Et donc, aujourd'hui, là, il y a une étape qui se joue à la cour d'appel de Lyon pour ce procès-là. Est-ce que tu peux nous expliquer le pourquoi de ce procès ?
Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'en 2015, je travaillais sur le chantier de Romans, FBFC, le site de Romans. J'avais pour mission de remettre en ordre, je dirais, l'activité de traitement des déchets, parce que le site avait perdu son agrément, et donc ils étaient vraiment embêtés, ils ne pouvaient plus expédier des déchets nucléaires TFA, donc de très faible activité, au site de l'Andra, parce qu'ils faisaient n'importe quoi. Et donc moi, ma mission, c'était de mettre en place une organisation, et surtout de prouver à l'Andra qu'on envoyait des colis qui étaient conformes à leurs exigences. Donc c'était un métier, une activité qui me plaisait vraiment sur le site de Romans. J'étais à l'époque aussi élu du personnel, je suis un militant, syndicaliste, et puis mon employeur a vu de mauvais oeil le fait que je dois m'absenter pour des réunions, pour aller mener des enquêtes quand il y a eu des accidents, des choses comme ça. Et donc il a décidé de me rapatrier sur le site de Tricastin, et donc j'ai été pénalisé financièrement, bien évidemment. Et donc je conteste cette sanction, quoi. Enfin, cette mutation qui n'est pas concertée.
Ouais, c'est ça. En fait, ils t'ont muté, ils t'ont changé d'endroit et d'activité parce que peut-être tu faisais un peu trop bien ton métier, justement, de prévention des risques et de défense des travailleurs.
Alors, on m'a dit que je n'étais pas assez corporate. Voilà. Je ne faisais pas assez remonter à ma direction les problèmes qu'il pouvait y avoir sur les chantiers, sur les activités. À ma connaissance, le client, le donneur d'ordre, était satisfait de la prestation. Ça se passait très bien avec l'équipe que j'encadrais, il y avait 6 personnes. Et quand il y avait des problèmes, je les traitais de suite avec les gens, quoi. Et puis on corrigeait le problème. Et donc ma direction m'a reproché de ne pas sanctionner. Enfin voilà, il fallait montrer un peu montrer les dents, quoi. Il fallait montrer qu'on était en termes de supériorité. Enfin, c'était un peu. C'est bidon, pardonne-moi, mais c'est quelque chose qui les problèmes doivent se régler sur le chantier, quoi. J'ai pas besoin d'informer ma hiérarchie que j'ai des difficultés, non. Les difficultés, on les traite avec les personnels, parce que c'est eux qui sont confrontés, et c'est souvent eux qui ont, et très souvent, les solutions, quoi.
Oui. Et là, du coup, parce que toi, tu as attaqué ton ex-employeur au Rano pour cette mutation forcée, non concertée, et puis, en tout cas, certainement pas justifiée par le manque de qualité dans le fond du travail que tu faisais. Et quelle est l'attitude là, de l'employeur dans ce procès ?
Alors, ils ont été odieux parce que 2 ans après le début de l'affaire, au tribunal des prud'hommes, la directrice de mon entreprise a fait un courrier, une attestation sur l'honneur, en stipulant que j'étais favorable à cette mutation et que donc pour elle il n'y avait aucun problème. Sauf que quand on demande à un salarié protégé, puisque c'était mon cas, de muter sur une autre activité, mais il faut qu'il y en ait un écrit, quoi. Il faut qu'il y ait une trace écrite et que éventuellement le salarié accepte ce changement de contrat de travail, de poste. Et moi, ça n'a pas été le cas. Donc, j'estime que 2 ans après, faire une attestation sur l'honneur, ça prouve là aussi le niveau de l'honneur de ces personnes, quoi. Enfin,
ouais, une mauvaise foi totale et puis un mépris vraiment manifeste envers l'individu, quoi.
Donc voilà, maintenant j'attends de connaître les conclusions, on va dire, de la cour d'appel, et puis après j'aviserai en fonction de ce qui sera décidé, quoi. Mais bon, je vais pas lâcher l'affaire, quoi, voilà.
Ouais. En plus, de toute façon, écoute, on se tiendra au courant des suites et dans tous les cas. Tout ça, il y a l'air d'y avoir vraiment beaucoup de choses à dire. Nous, c'est vrai que sur Radio Canu, dans les infos du vendredi, on a à cœur vraiment, vraiment la lutte pour protéger, défendre et soutenir les travailleurs du nucléaire. Parce que pour nous, c'est vraiment un très bel exemple de comment l'industrie peut traiter ce qu'elle fait de l'humain qu'elle emploie, quoi. Donc encore merci à toi, Gilles, et puis heureusement que ma zone contrôlée existe. On fera tout pour te soutenir et on continuera de parler de ce collectif. Et du coup, on t'attend très très prochainement pour un plus long entretien en direct dans nos studios.
J'organise ma venue sur Lyon, c'est promis, Laure.
Avec un immense plaisir. Encore merci Gilles, et puis bon courage, et puis on est plein à être derrière toi et avec vous.
C'est gentil, merci à vous. Merci à vous tous. Merci.
Alors, en attendant la venue de Gilles Reynaud dans les studios de Radio Canu, n'oubliez pas, si vous voulez vous tenir informé, suivre, aider cette lutte qui nous concerne toutes et tous et qui illustre si bien ce que fait l'industrie et le capitalisme à l'être humain, allez jeter un œil, allez régulièrement sur le site de l'asso MZC, donc mazonecontrôlée.org. N'hésitez pas à aller voir aussi les réseaux sociaux, ils sont bien actifs et ça donne envie d'être avec eux et avec elles et derrière eux et derrière elles.
And now in the Canu Info.
Rubrique internationale. International.
Rubrique.
Cronaca internazionale.
Et oui, pour la rubrique internationale, on va aller du côté de la Grèce et plus particulièrement en Crète. Parce qu'il y a eu l'évacuation d'un squat historique grec et qu'on avait un peu envie de vous le relater parce que ça retrace aussi un peu tout ce qui se passe en Grèce, en tout cas la répression sur les mouvements anarchistes et anti-autoritaires depuis un certain temps. L'évacuation de l'occupation Rosanera sur la colline de Castelli, dominant le vieux port de la Canée, a été effectuée du coup tôt samedi dernier, samedi 5 septembre, au matin, par la force policière. Avec l'expulsion de l'occupation Rosanera, l'État grec met brutalement fin à 16 années d'occupation libertaire et auto-organisée. Depuis la prise du pouvoir par un gouvernement de droite, des dizaines de squats politiques anarchistes ou anti-autoritaires ont été évacués par la violence policière. Il s'agit d'une décision centrale d'ordre et de sécurité appliquée par l'État grec. C'est depuis 2004 que le squat de Rosanera à Ania, en Crète, se tenait sur la colline surplombant la vieille ville, là où tous les pouvoirs s'étaient installés auparavant. Directeur vénitien du XIIIe au XVIe siècle, jusqu'au prince Georges de Grèce, le bâtiment avec sa cour intérieure et sa terrasse était devenu ensuite propriété de l'université. L'occupation avait ouvert le lieu à des habitations collectives, un café-bar, une bibliothèque et des espaces d'organisation, de lutte, d'accueil, de théâtre et d'études. Et donc, samedi dernier, le 5 septembre, vers 6h du matin, les forces de l'ordre ont évacué le squat. Le gouvernement avait annoncé vouloir évacuer tous les squats en novembre dernier. Il y a deux jours, c'est à Thessalonique que des opérations ont eu lieu. Aujourd'hui, enfin en tout cas le 5 septembre, c'est Rosa Nera qui a été attaquée. Ce magnifique bâtiment a été racheté par les propriétaires israéliens de l'hôtel Le Belvédère dans la ville. La perspective de voir ce lieu détruit, alors que depuis 16 ans il résistait au plan de restructuration qui veut réduire cette ville à un consortium d'hôtels et de divertissements pour touristes, est une triste nouvelle, mais nourrit notre commune colère. Nous sommes nombreux, nombreuses, de France et d'ailleurs, à y avoir été accueillis, et nous saluons ceux et celles qui l'ont tenu et qui le défendent aujourd'hui. Les 15 personnes mineures arrêtées samedi dernier ont été relâchées, en tout cas pour le moment, et pour les personnes qui y résidaient, notamment beaucoup de personnes sans papier, leur sort est encore incertain. Des manifestations de solidarité ont déjà eu lieu en Grèce, qui ont réuni quasiment un millier de personnes. Et en France, le mot commence à se faire tourner et les signes de solidarité à être envoyés. Du coup, c'est aussi une solidarité internationale qui se permet de se parler entre pays, de s'entraider, de se connaître, qui est attaquée. Et c'est toujours bien, je trouve, de relayer ces choses-là et de pouvoir apporter notre soutien. Donc voilà, tout soutien au squat Rosa Nera en Crète et aux autres lieux collectifs de Grèce.
Et maintenant, une petite chanson, parce que demain, c'est le Tour de France. Et que malgré tout, on est quand même, on aime un peu le vélo quand même, un peu malgré tout.
Quand on partait de bon matin, quand on partait sur les chemins, à bicyclette, nous étions quelques bons copains. Il y avait Fernand, il y avait Firmin, il y avait Francis et Sébastien, et puis Paulette. On était tous amoureux d'elle, on se sentait pousser les ailes à bicyclette. Sur les petits chemins de terre, on a souvent vécu l'enfer, pour ne pas mettre pied à terre devant Paulette. Faut dire qu'elle y mettait du cœur, c'était la fille du facteur à bicyclette. Et depuis qu'elle avait 8 ans, elle avait fait en le suivant tous les chemins environnants à bicyclette. Quand on approchait la rivière, on déposait dans les fougères nos bicyclettes. Puis on se roulait dans les champs, faisant naître un bouquet changeant de sauterelles, de papillons et de rainettes. Quand le soleil à l'horizon profilait sur tous les buissons nos silhouettes, on revenait fourbu content, le cœur un peu vague pourtant, de n'être pas un seul instant avec Paulette. Prendre furtivement sa main, oublier un peu les copains, la bicyclette. On se disait c'est pour demain, j'oserai, j'oserai demain, quand on ira sur les chemins à bicyclette.
Et on fait quoi maintenant?
Devine, mon premier est une personne qui n'a pas mangé. Mon second est oui en russe. Et mon tout est un outil permettant d'associer des actions et des moments et d'organiser ainsi son temps. C'est...
l'agenda!
Et oui, il y a encore et toujours un agenda, rien ne nous arrêtera. Alors, on n'a pas vraiment envie de vous conseiller, vous l'avez compris, forcément d'arriver fanion et canette à la main, soutenir les sportifs de demain. Mais par contre, je voulais faire un petit tour de voir ce qui se passe à 13h à Bellecour pour voir si vous voyez d'autres jaunes se profiler. Eh bien, pourquoi pas. Et surtout, ce qu'on a noté, c'est la rentrée de la mobilisation sociale. Et la rentrée de la mobilisation sociale, c'est ce jeudi, le 17 septembre. Et le rendez-vous est donné, sans aucune surprise, à 11h30 à la manufacture des tabacs. C'est vraiment une grosse manifestation de rentrée appelée par quasiment l'intégralité des syndicats et de nombreux collectifs. C'est une journée d'action qui est dans de nombreux secteurs professionnels et de nombreux territoires. Et tout ça, c'est pour évidemment revenir sur les politiques sociales de ces derniers mois mises en place par le gouvernement, dénoncer le plan de relance qui n'en est pas un et essayer de faire que la crise sociale soit moins pire que celle annoncée. En tout cas, c'est surtout pour se retrouver. Du coup, on vous donne rendez-vous à 11h30 à la manufacture des tabacs, jeudi 17 septembre, jeudi prochain.
Radio Canu.
Bonjour, je m'appelle Mathieu. Qu'est-ce que ça veut dire, ACAB ?
Radio Canu. Canu Info du vendredi.
Et alors, qu'est-ce que ça veut dire, ACAB ?
Eh bien, ça veut dire...
Merde, j'ai oublié. Arrête le Covid avec ta bicyclette. Et voilà, et on termine 10 minutes en avance. Et d'ailleurs, Noise Pollution ne seront pas en train de nous bousculer derrière, etc. On ne peut pas les... Voilà, mais du coup, on peut les charrier sans qu'ils nous entendent. Et donc, dans 10 minutes, viendra l'émission, je ne sais pas comment on pourrait la qualifier, si vous avez un qualificatif particulier. En tout cas,
Guinguette. Hein.
Voilà, l'émission de Guinguette.
Et musique douce.
Voilà, et musique douce. On était très contents de faire ce canu info de rentrée pour le vendredi. Et on vous dit de toute façon à la semaine prochaine.
Et puis on vous laisse avec les bandes continues.
Et on vous laisse avec les bandes continues pour l'instant. Voilà.
Toujours sur Radio Canus 102.2, on vient d'écouter Erez Errata avec Marathon, Mazurka de Boban et Marco Markovic Orchestra, et le blues d'une lesbienne des Dykes of Hazzard.
on a été le premier groupe à être banni d'Angleterre. Leur musique était jugée offensante par les associations parents.
Les paroles de certaines chansons peuvent-elles être à l'origine de troubles de l'ordre public? C'est en tout cas la crainte de la Confédération nationale des associations familiales catholiques.
Noise pollution.
Il s'agit de textes qui incitent l'auditeur à se suicider, à tirer, à appuyer sur la gâchette. Jusqu'où on peut aller sous le bénéfice du folklore.
On peut habituellement reconnaître les fans de heavy metal à ce qu'ils portent.